une histoire particulière. 27 juin 1905, le cuirassé russe Potemkin est en manœuvre à Sébastopol, sur les bords de la mer Noire, dans un contexte politique très électrique. Lorsque de la viande avariée est servie à bord, c'est la goutte d'eau. L'équipage prend les armes contre les officiers qui menacent de les fusiller pour ne pas avoir voulu manger cette viande. Un déchaînement de violence fait plusieurs dizaines de victimes, dont le commandant du cuirassé et des officiers. Ce week-end, départ pour Tahiti pour un autre récit d'une mutinerie qui va marquer l'histoire.
Aujourd'hui, nous sommes un jour très particulier. Il y a exactement 234 ans que la Bounty est arrivée à Tahiti, dans cette baie, la baie de Matavai, où nous nous situons aujourd'hui. Et cette baie est très connue parce que la plupart des premiers explorateurs sont venus y mouiller, c'est-à-dire jeter l'ancre et ont débarqué en baie de Matavai. Le capitaine Samuel Wallis, puis le capitaine Cook, et aussi, évidemment, le capitaine Bligh.
Le capitaine Bligh a 21 ans. Il était le maître de navigation de Cook lors du troisième voyage, Fatal Voyage. Et c'est Bligh qui était donc maître de navigation, hydrographe et dessinateur. Donc c'est pas n'importe qui. Rien ne pouvait laisser présager que ça allait mal se passer sur un bateau, même si tout le monde sait que sur un bateau, par définition, confiné comme ça si longtemps, ça peut très bien virer mal.
Les mutinés de la Bounty. Premier épisode. Cap sur Tahiti. Séverine Cassard, Stéphanie Thomas.
Le capitaine Bligh, qui était-il ?
Corinne Rebaud, historienne.
Le capitaine Bligh est issu d'un milieu modeste, il est anglais, il est né dans les Cornouailles et dès l'âge de 7 ans, sa famille le met sur un bateau. Alors maintenant, ça nous choque tout à fait puisque imaginez un petit enfant, un petit garçon de 7 ans confié au capitaine d'un navire pour devenir son serviteur. Et donc, il est devenu le serviteur du capitaine pendant des années. Mais lui, qui était un garçon intelligent et très certainement ambitieux, a profité de ces années pour apprendre, découvrir la navigation, s'informer, demander, etc. Et à l'âge de 16 ans, il rentre dans la Royal Navy, donc ce qui est quand même quelque chose de très honorable. Et c'est ainsi qu'en 1787, il sera nommé à la tête de la Bounty. Alors la Bounty, c'est un petit navire qui s'appelait d'abord la Bessia et puis qui a été rebaptisé en Bounty, signifiant la générosité, ce qui peut-être n'est pas ce qui a qualifié toute la suite de l'opération, mais enfin bon, c'est un clin d'œil peut-être du destin. En tous les cas, ce bateau donc est armé à ce moment-là pour traverser les océans et aller jusqu'à Tahiti. Parce que le seul objectif du voyage de la Bounty et d'aller chercher les fruits de l'arbre à pin à Tahiti. L'arbre à pin, c'est un arbre qui pousse de façon assez importante en Océanie et qui a la particularité de produire des fruits assez gros, de forme ronde, qu'on appelle ici des ourous et qui représentent le fruit de l'arbre à pin.
Xavier Aubriot, botaniste.
Alors ici, on est dans les compactus de l'herbier du Muséum d'Histoire Naturelle, donc les grands meubles dans lesquels on va retrouver l'ensemble des collections de plantes séchées hein, qui sont attachées sur les planches de l'herbier du Muséum, qui est un des plus grands herbiers du monde, hein, avec à peu près 6 millions de spécimens. Les plantes à l'intérieur sont organisées par groupes. Et ces groupes, c'est les familles de plantes. Et là, on est dans la famille des Moracées, qui est la famille dans laquelle on a l'arbre à pin. Alors les Moracées, on les connaît bien. Hein. C'est le figuier, c'est le mûrier, l'arbre. Hein. Pas le buisson, mais voilà. Mais ça va être aussi, bah, justement, hein, l'arbre à pin. Alors, l'arbre à pin, il appartient au genre Artocarpus. Voilà, c'est son petit nom scientifique. Et l'arbre à pain, alors son petit nom botanique, c'est Artocarpus altilis. Et altilis, en latin, ça veut dire gras.
Xavier Aubryot, est-ce que vous pouvez nous décrire cette feuille de l'arbre à pain ?
Ah, la feuille de l'arbre à pain. Bah, c'est des très grandes feuilles. Alors ça, c'est vraiment typique un peu de la famille des Moracées, hein, de la famille du figuier. C'est des grandes feuilles qui sont lobées. Alors, plus ou moins lobées en fonction des variétés d'arbres à pain. Mais là, elle est un peu typique de ces arbres à pain avec des fruits sans graines, c'est-à-dire avec des lobes profonds.
Ça ressemble à une main, en fait.
Oui, ça ressemble un peu à une main. Ouais, ça, c'est vrai. Ça ressemble un peu à une main. Ah oui, bah oui, nous, évidemment, si, botaniste, on va toujours utiliser notre vocabulaire très, très scientifique, hein. Voilà. Alors, on dirait que c'est pénatilobé. Alors, justement, pénatilobé, peigne, parce que ça fait des lobes comme ça, organisés un peu comme des barrettes d'un peigne, grosso modo.
Et lors du premier voyage de James Cook en 1769, lorsqu'il arrive à Tahiti et qu'il va séjourner 3 mois à Tahiti entre le mois d'avril et le mois de juillet 1769, eh bien, ils ont à bord un botaniste de renom, Joseph Banks. Et Joseph Banks va observer que les Tahitiens adorent manger du fruit de l'arbre à pain. Ils le lui font goûter et ils vont faire de nombreux repas à terre avec des Tahitiens où ils mangeront du fruit de l'arbre à pain. Et donc, de retour en Angleterre, Joseph Banks, qui a été le mécène de la première expédition de Cook, qui est un brillant aristocrate, un botaniste éclairé, pétri de l'esprit des Lumières, mais aussi un homme très pragmatique, eh bien, il se dit que pour nourrir les esclaves des colonies anglaises dans les Antilles, cela serait beaucoup moins coûteux de les nourrir avec des fruits de l'arbre à pain. Donc, l'idée qu'il propose à la Royal Society et à la Royal Navy à Londres, c'est de monter une expédition pour aller chercher des plants de l'arbre à pain à Tahiti et aller les replanter aux Antilles. Et ensuite, au bout d'assez peu d'années, eh bien, ça allait nourrir les esclaves à très bas prix.
La botanique au XVIIIe siècle, en fait, c'est le résultat d'un long processus, hein, d'évolution de la botanique. Et c'est en fait depuis la Renaissance qu'on commence à s'intéresser aux plantes, non pas juste pour leurs usages, mais pour ce qu'elles sont, en fait. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe aussi en 1492, la découverte de mondes entièrement différents. Et donc évidemment, il y a cette passion des sciences qui va infuser dans les corps, dans les cœurs, des penseurs, des scientifiques de l'époque, qui n'ont que ça à faire. Qui n'ont que ça à faire parce que ce sont des gens qui n'ont pas de problème d'argent, ce sont des gens très riches. Ils ont tout le temps disponible pour faire de la botanique. Joseph Banks, dont on parlait, c'est clairement ça. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème d'argent, il peut faire ce qu'il veut de sa vie. Et ça va de pair avec le fait que les empires européens prennent du pouvoir militaire, du pouvoir démographique, et ils vont commencer à s'exporter hors d'Europe et à étendre leur domination et leur pouvoir sur l'ensemble des pays du monde. Et donc là, se met en marche un truc un peu catalytique, où il y a des scientifiques passionnés par la diversité des plantes, et eux, ils ne sont pas passionnés forcément par la quête de pouvoir de leurs empires, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils dépendent du milieu de l'époque, qui est en fait une époque d'expansion. Donc clairement, là, on a des intérêts qui se rencontrent, les intérêts des gouvernants et les intérêts de personnalités qui sont passionnées et qui dédient leur vie, en fait, à leur passion.
Je me demande ce qu'un jardinier vient faire à bord, hein. Ah, je sais, on va aller à Tahiti les remplir avec je ne sais pas quoi, c'est ça?
Eh bien, d'habitude, on remplit les pots vides avec quelque chose.
Qu'est-ce que tu as là? Un télescope?
Non, prenez garde, je vous en prie, ce sont des documents scientifiques. Des rapports d'agronomes.
Oh,
quoi? D'agro quoi?
Des rapports d'agronomes. Des dessins de l'arbre à pain. La Compagnie des Indes occidentales projette d'en nourrir les esclaves de la Jamaïque, quel qu'en soit le goût. Mais si cet aliment est adopté, il en fournira au monde entier.
Et Banks, Sir Joseph Banks, confie ce projet à William Bligh.
Sylvie Largeau-Ortega, angliciste.
Qui avait été à bord du navire de Cook lors de la troisième circumnavigation de Cook, qui connaissait donc bien la région de l'océan Pacifique, qui avait navigué et participé à l'opération de dessin des cartes de la région. qui avait contribué avec Cook à la rédaction d'un lexique de tahitien. Donc, il semble être l'homme tout à fait désigné pour remplir cette mission.
Le capitaine monte à bord.
Le capitaine Bligh.
Serge Dunis, anthropologue.
Lorsqu'il est choisi pour cette mission d'aller récupérer l'arbre à pain, on sait à qui on a affaire. D'autant plus qu'il a fait beaucoup de voyages aux Antilles avec les planteurs et qu'il a choisi lui-même Fletcher Christian, qui avait fait deux voyages aux Antilles avec lui. Donc au départ, c'est par amitié. C'est presque même par soutien, parce que c'est la femme de Bligh qui avait sous-entendu que ça serait bien de recruter Fletcher Christian.
Lieutenant Christian, capitaine, je viens embarquer sous vos ordres.
Eh bien, vous arrivez juste à temps. Veuillez prendre vos fonctions sans plus attendre.
À l'époque, la vie, globalement, surtout dans les ports, les équipages, c'était des gens quand même très pauvres.
L'amiral Emmanuel Desclèves, Académie de Marine.
Et la perspective d'embarquer pour 2-3 ans de voyage, d'expédition, pouvait tenter un certain nombre de gens qui avaient des difficultés à survivre dans les ports et qui étaient finalement assez contents de trouver un embarquement, même si c'était dangereux et pas bien payé. Mais les états-majors, j'allais dire anglais comme français d'ailleurs, forçaient un peu la main d'un certain nombre de gens pour embarquer plus ou moins contre leur gré sur les navires de leurs majestés respectives.
J'ai trop soif. Faut que j'ai de l'eau.
Les conditions de vie à bord étaient extrêmement sévères. Étaient sévères pour la discipline imposée par les règlements des marines royales et sévères parce que le bâtiment lui-même était particulièrement inconfortable, insalubre, etc., etc. La promiscuité, manque d'hygiène, nourriture tout à fait inadaptée, très peu d'eau, etc., etc. Enfin, toutes les conditions étaient remplies pour rendre à ces traversées, si vous voulez, surtout les plus longues, un avant-goût d'enfer, comme le dit l'amiral Bellec dans un de ses ouvrages. Le risque principal dans ces expéditions, qui étaient des expéditions scientifiques, hein, je ne vous parle pas des risques de guerre, là on partait pas à faire la guerre, on partait donc à la découverte du monde. Le risque principal, en réalité, compte tenu de la longueur des traversées en particulier, c'était finalement les maladies, dues essentiellement aux conditions d'hygiène et de nourriture. La preuve, c'est que dans la première expédition de Cook sur un seul bateau, 40 personnes ne sont pas rentrées. 40 personnes sur 90 ou quelque chose comme ça. Donc c'est considérable. Et c'est dû à des fièvres, c'est dû au scorbut essentiellement, et puis quelques maladies, la malaria, etc., qu'ils ont contractées, notamment lorsqu'ils sont arrivés du côté de l'Indonésie. Il ne faut pas non plus négliger les risques qui ont été encourus et qui se sont avérés assez sévères quelquefois lors de la rencontre avec les sauvages ou les Indiens, suivant les dénominations de l'époque, qui étaient rencontrés dans ces îles encore inconnues. Cook lui-même a été tué aux îles Hawaï dans son dernier voyage en 1779. Et puis beaucoup d'autres avant lui étaient morts dans ses rencontres avec les populations locales. Du côté occidental, quand même relativement peu de morts par rapport au nombre considérable des morts du côté des indigènes, bien entendu. Sans compter des fortunes de mer, le danger de la navigation, les tempêtes, les risques d'échouage, etc. Mais c'est pas très important en pourcentage par rapport aux morts des maladies comme le scorbut.
Donc l'opération est montée, mais est retardée parce que l'amirauté oublie de donner le feu vert pour le départ de l'expédition. Donc le Bounty attend et attend quelques semaines pour pouvoir enfin partir, prendre son élan. Et c'est ce départ qui va expliquer que le bateau arrive au Cap Horn à une période où il ne peut plus franchir le Cap Horn. C'est l'hiver austral, la mer est démontée, les conditions météorologiques sont calamiteuses. Bligh essaye de passer le Cap Horn pendant un mois et doit renoncer et faire demi-tour pour entreprendre le voyage en passant par le cap de Bonne-Espérance.
Le Cap Horn, c'est donc ce cap qui est le plus au sud de l'Amérique du Sud, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. C'est donc le passage pour aller de l'Atlantique au Pacifique. Simplement, lorsque vous passez dans ce sens-là, donc vers l'ouest, vous vous opposez à la mer et au vent qui sont contre vous. Et donc vous avez au Cap Horn des temps très violents. De nombreux navires, à voile notamment, ont eu beaucoup de difficultés à franchir le Cap Horn. Et encore dans les années 1900, début du siècle, avec les derniers grands voiliers qui allaient chercher du nitrate sur les côtes ouest de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire dans le Pacifique, et qui franchissaient donc le Cap Horn, ces grands voiliers ont eu à l'occasion beaucoup de difficultés à franchir le Cap Horn. On parle de gens qui ont passé 3 mois pour essayer de le franchir sans réussir, et même 6 mois, récemment, beaucoup plus récemment que du temps de Bligh.
La route du Cap Horn nous fera gagner 5 mois sur notre voyage.
Ma foi, cela va nous réserver quelques aventures. Si jamais nous réussissons à doubler le Cap Horn au cœur de l'hiver.
Pourquoi ne pas réussir? L'amiral Hanson l'a fait.
Oui, mais il faut reconnaître qu'il ne s'y est pas risqué sur un navire aussi modeste.
Au bout d'un moment, Bligh s'est dit « Je ne passerai jamais, donc faisons demi-tour, passons par l'Australie ». Ça rallonge quand même considérablement le voyage et l'état d'esprit des matelots, j'imagine.
Oui, mais si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de très original, encore une fois, parce que le Cap Horn est connu tous les marins. On savait que c'était difficile et qu'on pouvait ne pas pouvoir le franchir. Et on savait bien qu'à ce moment-là, il fallait faire demi-tour. Donc c'est un peu aussi un soulagement par rapport à la situation où on était mer de l'avant, dans des conditions très difficiles, et quand ils ont fait demi-tour, l'équipage a dû être quelque part soulagé. Hein. Du point de vue des mouvements du bateau, si vous voulez, du danger qu'encourait le bateau, d'accord, le voyage était plus long, mais c'était beaucoup plus confortable.
Bligh, contrairement à la réputation qu'il a acquise par la suite, était soucieux du bien-être de ses hommes. Pour vous donner un exemple, il avait engagé à bord un violoniste aveugle qui avait pour seule fonction de jouer du violon pendant 2 heures et les hommes devaient danser. C'était le précurseur des sessions de keep fit, d'aérobic ou ce que vous voulez. En tout cas, cela est une des preuves du souci qu'avait Bligh du bien-être de ses hommes. Il était également soucieux de leur santé et en cela héritier de Cook, puisqu'il savait comment combattre le scorbut, notamment en mangeant du chou, qui était le moyen le plus connu à l'époque pour combattre le scorbut. Bref, le voyage dure longtemps, les conditions ne sont pas parfaites. Hein. Il faut bien comprendre que les conditions n'étaient pas parfaites dans aucune de ces entreprises à l'époque. Mais ce voyage se distingue quand même par rapport aux autres navigations dans le Pacifique par le fait que très peu d'hommes sont fouettés, beaucoup moins qu'avec tous les autres capitaines qui ont navigué dans l'océan Pacifique avant Bligh. Et ils finissent par arriver à Tahiti à une époque où ce n'est pas la saison d'abondance, il n'y a pas beaucoup de fruits de l'arbre à pain. De toute façon, il faut donner du temps pour que les plants prennent racine. Donc, cette mission s'installe pour 5 mois à Tahiti.
Ils arrivent donc le 26 octobre 1788 en baie de Matavai, et la déception, parce qu'en quelques jours, William Bligh va découvrir qu'il n'y aura pas assez de plants de l'arbre à pin pour les transporter. À cause de ce départ en décembre d'Angleterre, Ils ne parviennent pas à passer le Cap Horn au bon moment. Donc, ils font 10 mois de navigation. Et quand ils arrivent, eh bien, c'est trop tard. Donc, il va devoir attendre autour de 5 mois que les plants repoussent. Donc, il va falloir faire du repiquage. Il va falloir arroser tous les jours. Il va falloir s'en occuper. Et ça, ça sera la fonction de la plupart des hommes d'équipage, aidés par les Tahitiens. Ils vont installer un espèce de petit jardin à terre où ils vont s'occuper de tout ça. Et au cours de ces 5-6 mois, évidemment, la discipline va se relâcher parce que les marins seront tous les jours à terre pour aller s'occuper des arbres, mais ils ne s'occuperont pas que de ça. Donc, ils rencontrent les Tahitiennes et puis, évidemment, ils passent du temps ensemble. Et tout cela va considérablement agacer William Bligh parce que lui ne prendra pas de femme tahitienne. Il va rester au mouillage sur son bateau à s'ennuyer mortellement. Et puis ensuite, il descendra à terre, mais pour ses fonctions officielles de rencontre avec les chefs, de grands amarras, de grands repas, pour que la mission puisse aboutir aussi. Donc, William Bligh s'ennuie. Il est furieux de voir que son équipage fait un peu n'importe quoi. Et Fletcher Christian, donc le jeune homme qui a désormais 24 ans, eh bien, lui, il va profiter des joies de l'île de Tahiti et il aura une compagne. Et tout ça, ça va beaucoup agacer William Bligh, qui passe son temps à écrire à sa femme. Il écrit des lettres et des lettres, et le reste du temps, il regarde le paysage, il s'ennuie. Il va quand même, vu qu'il est féru de botanique, et pour passer le temps, il va lui-même constituer un jardin. Parce qu'à chaque fois, ses navigateurs amenaient des graines, amenaient tout un tas de choses, et donc, il va s'occuper de son jardin en attendant.
Et les marins mettaient-vous à leur place. Pour eux, c'était le romantisme pur, c'était le rêve, c'était l'île, les cocotiers, la vie facile, et puis surtout, les femmes accueillantes. Donc, pour un marin de cette époque, il faut aussi se mettre à leur place. Après 5 mois de cette vie-là, ils ne pouvaient pas facilement reprendre la discipline du bord et repartir sur un bateau où c'était les plantes d'arbres à pain qui avaient préséance.
Il a fallu que Bligh fasse remonter tous ses hommes à bord, mais ça, il faut dire quand même que ça fait partie de la vie des marins. Ils savaient qu'en venant là, même si l'escale avait été incroyablement longue pour les besoins de la cause, ils savaient qu'ils repartiraient. Même s'ils avaient eu des compagnes et qu'ils en étaient sûrement ravis et très satisfaits. Sauf que Bligh devient extrêmement sévère pendant les premiers jours pour remettre tout le monde au travail. Et il s'en prend particulièrement à Fletcher Christian, qui devient, pendant les 15 premiers jours du voyage, son souffre-douleur. Alors pourquoi, alors qu'ils avaient d'excellentes relations auparavant, devient-il le souffre-douleur de Bligh ? Il a peut-être été déçu par le comportement de Fletcher Christian à Tahiti, et peut-être il a considéré qu'il se comportait comme des hommes d'équipage, que pour lui c'était normal que des hommes d'équipage se comportent ainsi, mais pas les lieutenants, et encore moins parmi les lieutenants, Fletcher Christian, qui était son espèce de dauphin.
Est-ce qu'on a des écrits de Fletcher Christian ? Est-ce qu'on sait quels étaient ses états d'âme ?
Alors ça, on a des relations que par les autres mutins et parmi ceux qui écrivaient quand même, et ceux qui sont revenus en Angleterre, dont James Morrison par exemple, et quelques autres. Parce que le problème, c'est que Fletcher Christian va être pris dans le feu de l'action, il va être sans arrêt tensé par William Bligh, il va même l'accuser de vol parce qu'il aurait soi-disant volé des noix de coco, etc. Enfin bon, des choses ridicules. Mais il est sans arrêt en train de le poursuivre de sa colère. Et pendant les 15 jours, eh bien, Fletcher Christian est de plus en plus déprimé. Et il est même dit qu'autour du 10e jour, il serait allé voir en secret le charpentier du bord pour lui demander de lui construire un espèce de radeau dans le plus grand secret pour pouvoir s'enfuir. Donc là, c'était même pas lui qui voulait prendre le commandement du navire, c'était lui qui voulait s'enfuir. Il voulait se retrouver sur un radeau parti à la nuit dans l'océan Pacifique jusqu'à rencontrer une île et peut-être finalement survivre comme ça. Et la tragique erreur de William Bligh, c'est que non seulement il le poursuit, il est sans arrêt en train de le tenser, de le réprimander, particulièrement devant tout le reste de l'équipage. Alors, c'est à la fois une erreur stratégique et comportementale de la part de William Bligh, mais c'est peut-être une chance saisie par l'équipage. Parce que dans cet équipage, il y a quelques fortes têtes. Il faut voir que ces équipages étaient loin d'être des gens courtois, polis et bien élevés. C'était des gens faits de sacs et de cordes qu'on trouvait dans les ports pour être membres d'équipage sur des bateaux qui partaient pendant des mois et des années autour du monde. Et donc, dans cet équipage, il y en a sûrement certains qui sentent que leur chance est là. Ils voient le désespoir de Fletcher Christian, qui est le second. Ils voient la violence et la dureté de William Bligh envers lui. Et là, ils vont proposer à Fletcher Christian de prendre le commandement du navire. Et tout ça, ça va se dérouler très vite. En 15 jours, tout a lieu. Et il ne serait pas impossible qu'il l'ait fait boire la veille de la prise de possession du navire. Parce qu'il savait très bien, il était assez intelligent pour savoir que se mutiner, c'était la pendaison. Et donc, il savait pertinemment que la Royal Navy enverrait un navire pour les rechercher et les trouverait. Il savait que c'était la mort assurée d'une manière ou d'une autre, et surtout pour lui, qui devenait le chef des mutins. Donc, tout s'enchaîne de façon tragique, et au matin du 28 avril 1789, Fletcher Christian, avec une partie de l'équipage, mais très peu, une dizaine d'hommes seulement, ils vont aller réveiller Bligh au matin dans sa cabine, ils l'attachent et ils lui font savoir que désormais, il n'est plus le capitaine de la Bounty, que c'est Fletcher Christian et ce nouvel équipage donc, qui a pris possession du navire, et c'est le début de la mutinerie.
Merci à Serge Dunis, Corinne Rebaud, Sylvie Largeau-Ortega, l'amiral Emmanuel Desclèves et Xavier Aubriot. Avec des extraits des films Les Révoltés du Bounty de 1935 et 1962. Prise de son Stéphane Foulon, Noé Chaban. Mixage Éric Boisset. Attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard. Les Mutinés de la Bounty. Un documentaire de Stéphanie Thomas réalisé par Séverine Cassard.